Suivre le Christ, c'est suivre son enseignement, c'est suivre son exemple, c'est marcher à sa suite, c'est tenir compte de ce qu'il dit, de sa volonté, de sa parole. Et force est de constater que ce n'est pas toujours facile. Si vous êtes chrétien, engagé sur ce chemin de la foi depuis un certain temps, vous l'avez certainement déjà expérimenté. Suivre Jésus n'est pas toujours chose aisée, en particulier parce que l'enseignement de Jésus n'est pas toujours facile à suivre. Bien des paroles de Jésus nous interpellent, nous bousculent, nous laisse perplexes, nous dérange parfois. L'enseignement de Jésus est tout sauf un discours qui nous caresse dans le sens du poil. Le disciple veut non seulement suivre son maître, mais il veut aussi lui faire plaisir. Seulement voilà, certaines des exigences du maître sont difficiles, dures à suivre, parfois même elle nous semble impossible. Et pourtant, Jésus l'a dit. Et parce que Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne l'avait pas dit. Parce que Jésus l'a dit, si je suis son disciple, s'il est mon Seigneur et mon Sauveur, je me dois d'en tenir compte. Je me dois de tout mettre en œuvre pour obéir à sa volonté, à ses commandements, à sa parole, pour marcher à sa suite. J'aimerais, en ce temps de rentrée, vous proposer une nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Et pourtant Jésus l'a dit ». Une série où nous allons considérer certaines des paroles les plus surprenantes de Jésus, les plus dérangeantes parfois, les plus souvent mises de côté parce que leur mise en œuvre semble difficile, voire impossible. Une série où nous allons essayer de prendre au sérieux ces propos souvent mal compris ou simplement ignorés. Une série où nous allons faire l'inverse de ce qui est très tendance, où nous allons faire du tri. Pardon, nous allons faire l'inverse du tri sélectif qui est très tendance, que nous opérons parfois ce tri sélectif avec les paroles de Jésus, et en règle générale, avec tout ce qui nous dérange dans la Bible. On a tellement vite fait de mettre de côté certaines paroles. Alors ce matin, nous n'allons pas commencer par une parole parmi les plus difficiles ou les plus polémiques, bien que, mais par une parole qui dit quelque chose d'essentiel, de fondamental à la vie chrétienne, à savoir le pardon. Si la Bible a beaucoup de choses à dire sur cette thématique, Jésus n'est pas en reste. Et ce qu'il dit sur le sujet nous bouscule. Nous bouscule, et pourtant, Jésus l'a dit. La parole que j'aimerais considérer avec vous ce matin part d'une question d'un des disciples, de Pierre en l'occurrence. Pierre qui demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère lorsque celui-ci pèche contre lui. Et Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Quel est le sens de cette parole? À quoi nous engage-t-elle vraiment? C'est ce que je vous invite à considérer ce matin. Et j'aimerais tout d'abord que nous lisions 2 versets, c'est les versets auxquels je viens de faire allusion, et puis nous lirons la suite dans quelques instants. Alors Pierre vint lui demander, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pierre demande donc à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère quand celui-ci pèche contre lui. Et il avance le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Est-ce que 7 fois seront suffisantes? Les rabbins de l'époque, dans les textes que nous avons à disposition, recommandaient d'aller jusqu'à 3 fois. Certains parmi les plus téméraires allaient jusqu'à 4 fois. La proposition de Pierre est donc très généreuse. Il propose de pardonner jusqu'à 7 fois, si nécessaire, son frère qui, ayant été pardonné, l'offenserait à nouveau. 7 fois, c'est généreux. C'est en tout cas le summum de la grâce selon Pierre. C'est un effort conséquent, c'est le double par rapport à la pratique de l'époque. Ai-je fait tout ce que Dieu attend de moi en pardonnant jusqu'à 7 fois, même si mon frère ou ma sœur continue à m'offenser? Quand suis-je en droit de m'arrêter de pardonner? C'est le sens de la question de Pierre. Quand suis-je en droit de m'arrêter de pardonner? Jésus va aller bien plus loin que Pierre. Et c'est ainsi qu'il répond à Pierre de pardonner à son frère, non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. On peut aussi traduire 77 fois 7 fois. Vous verrez que ça peut avoir une importance tout à l'heure. Comment faut-il comprendre cette réponse de Jésus? Il s'agit sans doute ici d'une façon tout à fait sémitique de dire « accorde ton pardon à ton frère ou à ta sœur de façon illimitée, sans compter. Pardonne aussi souvent que nécessaire. Le pardon n'est pas une question de compte à tenir. » Et nous trouvons dans l'évangile de Luc un texte qui va dans ce même sens, du pardon sans compter. Luc chapitre 17 versets 3 et 4, « Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. Et s'il pèche contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. » La barre est haute. Pardonner sans compter. Aussi souvent que la personne se repent. C'est difficile. C'est compliqué. J'en ai pas envie, Seigneur. Une ou deux fois passe encore, mais sans compter, non. Et pourtant, Jésus l'a dit. Certains ont vu dans la réponse de Jésus à Pierre une allusion à un texte du début de la Genèse. Un texte qui s'affiche maintenant, Genèse 4, versets 23 et 24. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez-moi. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Lémec est un descendant de Caïn. Et ce Lémec, descendant de Caïn, a tué, dit le texte, pour sa blessure. C'est un acte de vengeance. Et cet acte de vengeance est bien évidemment condamnable. Mais ce qui est aussi condamnable et ce qui nous intéresse tout particulièrement pour notre texte, c'est l'arrogance de Lémec. En effet, Lémec déclare que toute offense à son égard devra être punie bien plus sévèrement que celle qui sera commise à l'égard de Caïn. Punition que Dieu avait lui-même décrétée pour Caïn, au verset 15, donc quelques versets auparavant. Le Seigneur lui dit, « Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. » Et Lémèque lui dit, « Si Caïn doit être vengé sept fois, Lémèque le sera 77 fois. » Il y a dans l'arrogance de Lémèque le désir de vengeance illimitée qui est attaché au cœur humain, marqué par le péché. Et en face de cela, Jésus va complètement renverser la vapeur. Et il répond à Pierre de pardonner 70 fois 7 fois ou 70 fois, 77 fois 7 fois. Et c'est là qu'on peut faire peut-être plus précisément le lien avec ce texte de la Genèse. De pardonner et non de se venger. De pardonner sans compter, de pardonner inlassablement, de pardonner autant de fois qu'il le faudra. Même si les nombres sont importants dans notre texte, l'important ce n'est pas de tenir des comptes. L'important ce n'est pas de faire des additions. L'important c'est de pardonner sans relâche aussi souvent que cela est nécessaire. Et vous en conviendrez avec moi certainement très facilement, cet enseignement est d'une part tout sauf conventionnel et tout sauf facile. Et puis tout sauf confortable. Il faut sortir de sa zone de confort. Week-end d'église, septembre 2016. Tout sauf facile, tout sauf conventionnel, tout sauf confortable. Et pourtant, Jésus l'a dit. Il l'a dit quand bien même cela nous surprend, quand bien même cela nous choque. Quand bien même cela nous dérange, et ce n'est pas fini. Parce que Jésus va expliquer, illustrer cette parole par une parabole, la parabole du serviteur impitoyable. C'est une parabole que nous avons considérée en groupe de quartier il y a à peu près un an, donc ça rappellera certainement des souvenirs à certains. J'aimerais vous inviter à la lire maintenant. Matthieu chapitre 18, je lis à partir du verset 23. C'est pourquoi il en va du règne des cieux, comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu dois !» Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et pourtant Jésus l'a dit. Notre parabole se compose de trois scènes, de trois tableaux. Une première scène qui va des versets 25 au verset 27, où le roi de cette histoire remet à son serviteur une dette immense. Deuxième tableau, où le serviteur ne montre aucune compassion à l'égard d'un confrère qui lui doit une petite somme. Et puis une troisième scène, versets 31 à 35, où le roi, appelé aussi le maître dans l'histoire, châtie ce serviteur impitoyable. Notons avant toute autre chose que notre parabole est une parabole qui décrit une réalité du règne des cieux. Verset 23. Cela veut dire que son champ d'application est en premier celui de la relation de l'homme à Dieu et de la relation de celui qui a reçu le pardon de Dieu avec ses frères et sœurs en Christ. N'oublions pas que la parabole vient comme une réponse à la question de Pierre, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» À mon frère, pas à mon prochain. En d'autres mots, les exigences que Jésus met en avant concernant le pardon sont des exigences qui concernent premièrement les relations fraternelles, les relations entre chrétiens, les relations dans l'Église, au sein de la famille de Dieu. Et puis, par extension, avec des nuances, nous pouvons l'appliquer à toutes nos relations. Venons-en à notre parabole et notons qu'elle illustre principalement deux choses. La première, qui correspond à la première scène, au premier tableau de notre parabole, c'est l'illustration de la grandeur de Dieu, pardon, de la grandeur de l'amour de Dieu au travers du pardon qu'il accorde à son serviteur. Et il ne faut pas faire une grande gymnastique cérébrale pour comprendre que le roi de la parabole, qui devient ensuite, plus tard dans l'histoire, le maître, représente Dieu. Ça fait consensus, je ne m'étends pas là-dessus. Et le serviteur représente le croyant. Que fait le roi de la parabole? Il annule la dette de l'un de ses serviteurs. En réalité, la dette, elle est juste faramineuse. Elle est immense. 10 000 talents, dit le texte. Une somme astronomique qui a pour but de mettre en avant, de mettre en exergue la grandeur du pardon de Dieu. Et pour nous faire comprendre l'importance de la somme qui est due par ce serviteur, Jésus, dans le texte, va utiliser le plus grand chiffre qui existe dans la langue grecque, c'est-à-dire le chiffre 10 000. Et puis, il va utiliser l'unité monétaire la plus forte de l'époque, c'est-à-dire le talent, et nous avons nos 10 000 talents. La dette du serviteur se monte à 10 000 talents. Alors pour nous qui vivons au XXIe siècle, 10 000 talents, ça ne dit pas grand-chose. 10 000 kilos d'or, 10 000 euros, bon, ça, on arrive à faire des comparaisons avec notre vie de tous les jours. Mais 10 000 talents, il faut que nous fassions un peu de calcul. Un talent, ça équivalait à 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, ou un denier, c'était à peu près le salaire d'un ouvrier, le salaire quotidien d'un ouvrier. Ce qui nous donne que pour un talent, nous avons 6 000 journées de travail. 6 000 journées de travail, c'est presque 17 années, hein, comme ça pour qu'on ait une idée. Ce chiffre, il faut bien évidemment le multiplier par 10 000, et vous arrivez à environ 164 000 années de travail. Autant dire une somme que le serviteur ne pourra jamais rembourser. À titre de comparaison, l'historien Flavius Joseph, dans ses Antiquités juives, précise qu'en l'an 4, donc c'est la même époque, l'an 4 avant Jésus-Christ, l'impôt annuel pour toute la Judée, pour toute la province de la Judée, se montait à 600 talents. Ça, c'était l'impôt pour toute la province de la Judée. 600 talents, une dette de 10 000 talents. Ça nous donne la grandeur de la dette. C'est une dette qu'il ne pourra jamais rembourser. Alors comment a-t-il contracté cette dette ? Peu importe, c'est vraiment pas là le but de l'histoire. Si on s'engage sur ce chemin-là, on passe à côté de l'intention de Jésus en racontant cette histoire. Le but de cette parabole est de nous faire comprendre l'immense amour de ce roi qui remet cette dette impayable à ce serviteur totalement insolvable. Et c'est bien ce que fait le roi. Ému, dit le texte, ému de compassion, il efface la dette, il remet tous les compteurs à zéro. Verset 27, ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. Ding, 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 on passe de 10 000 à zéro. Il ne s'était pas déplacé pour rien ce jour-là, le serviteur. Cette dette, nous comprenons assez facilement qu'elle représente la dette de notre péché devant Dieu. La dette de notre péché est une dette immense que nous ne pourrons jamais payer. Une dette immense qui, quand elle nous est remise, quand nous nous repentons, enfin qui est remise à celui qui se repent et à qui Dieu accorde son pardon. Jamais nous n'aurions pu payer la dette, notre dette, à Dieu. Notons que le serviteur de notre histoire lui pense pouvoir le faire. Il vivait dans l'illusion de pouvoir un jour rembourser son maître. Verset 26, l'esclave tomba à ses pieds, se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi, je te paierai tout. » Il me semble que nous avons ici la traduction de l'illusion qui berce souvent le cœur humain et qui consiste à croire que nous pouvons, si nous y mettons tous nos efforts, mériter Dieu. L'illusion de croire que nous pouvons le gagner par nos œuvres, par nos efforts. L'illusion de croire que nous pouvons mériter notre salut, mériter le pardon de Dieu. Mais la dette de notre péché est immense. Et nous sommes complètement insolvables. Mes amis, il fallait vraiment que l'amour de Dieu pour les hommes soit immense, infini, pour qu'il soit prêt à leur remettre une dette aussi grande. Que Dieu nous accorde de toujours mieux comprendre ce que représente notre péché aux yeux de Dieu, sa laideur, sa noirceur, la dette incommensurable et impayable de notre péché. Et que Dieu nous accorde aussi de toujours mieux comprendre l'immensité de son amour manifesté dans son pardon. Mais notre parabole ne s'arrête pas là. En réalité, nous n'avons fait que la moitié du chemin. Après avoir illustré la grandeur de l'amour de Dieu manifesté par son pardon, la parabole va illustrer dans le deuxième tableau ce que notre attitude ne devrait pas être. En tout cas, je parle ici de l'attitude de celles et ceux qui sont au bénéfice du pardon de Dieu. À peine sorti de l'audience avec son maître, le serviteur gracié rencontre une connaissance, un compagnon de service, et il se trouve que celui-ci est son débiteur. Il lui doit une certaine somme, une somme qui a son importance, 100 deniers, 100 jours de travail, c'est pas rien, 100 jours de salaire, un trimestre, 3 mois, c'est quand même non négligeable. La somme a son importance, mais mesurée à l'aune de la dette qui vient de lui être remise, cette somme est insignifiante. C'est une somme dérisoire comparée aux 10 000 talents. Et pourtant, dès que notre homme voit son débiteur, son compagnon, son confrère, il le saisit à la gorge, se met à serrer et lui dit, verset 28, « Paie ce que tu dois ». Il est intéressant de noter ici que ce compagnon de service va utiliser exactement les mêmes termes pour plaider sa cause que son créditeur venait d'utiliser auprès du roi. Verset 26, c'était devant le roi, l'esclave tomba à ses pieds, se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout ». Verset 29, son compagnon tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi et je te paierai ». Il n'y a pas le tout. Il est probable qu'à ce stade du récit, l'auditoire de Jésus se soit attendu à ce que ce serviteur, à qui une immense dette vient d'être remise, agisse lui aussi par compassion et remette la dette à son ami à l'instar de ce que son maître vient de faire pour lui. Mais ce n'est absolument pas ce qu'il fait. Non seulement il ne lui fait aucun cadeau, mais en plus il le fait jeter sur le champ en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il lui doit. Verset 30, mais lui ne voulait pas, il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Le manque de compassion du serviteur est à la mesure de la grâce de son maître. N'aurait-il pas dû remettre sa dette à son débiteur alors qu'il venait de faire l'objet d'une grâce si grande ? Sans minimiser certaines des offenses qui peuvent nous être faites, et je suis tout à fait consciente que certaines blessures, certaines offenses que certains peut-être parmi nous, en tout cas que l'être humain en général doit porter, peuvent être terribles, laisser des blessures qui sont là pour toute la vie, j'en suis pleinement conscient. Mais ces offenses, aussi grandes soient-elles, sont toujours minimes en comparaison à la dette que nous devons ou que nous devions à Dieu. Cependant, minime en comparaison à la dette de notre péché ne veut pas dire, et comprenez-moi bien, que les souffrances qu'elles infligent sont minimes. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Nous ne parlons pas de l'intensité de la souffrance. Même si les offenses que les hommes peuvent nous faire n'ont aucune mesure avec celles de notre péché devant Dieu, elles sont néanmoins parfois suffisantes pour faire souffrir toute une vie. Il ne s'agit donc absolument pas de minimiser la souffrance de quiconque. Ce n'est pas ce que fait notre parabole. Elle ne minimise pas la souffrance des offenses qui nous ont été faites. Elle se contente d'attirer notre regard sur l'ingratitude qui serait la nôtre si, après avoir été pardonnés par Dieu, nous refusions notre pardon à un frère ou une sœur. Pardonner n'est jamais facile. Je dirais même que pardonner, c'est tout sauf facile. On entend parfois « il suffit de pardonner ». Pour moi, c'est une affirmation à l'emporte-pièce qui traduit une connaissance, on va dire passable, de la souffrance humaine et du cœur humain. Non, il ne suffit pas de pardonner, parce que le véritable pardon coûte. Ce n'est jamais facile de pardonner quand nous avons été offensés. Pardonner coûte toujours. Pardonner coûte toujours parce que c'est remettre une dette. c'est renoncer à quelque chose auquel j'ai droit, auquel j'ai légitimement droit, quelque chose qui m'est dû. C'est dire à l'offenseur qu'il ne porte plus sur lui l'offense, que son offense a été éloignée de lui, j'éloigne de lui cette offense. À l'image de ce qui se faisait dans les pratiques du peuple d'Israël, vous vous souvenez quand le souverain sacrificateur posait les mains sur le bouc le jour du grand pardon et qu'il symboliquement il transférait les péchés du peuple sur le bouc, il priait et ensuite le bouc était chassé dans le désert. Et c'était un symbole très fort pour dire que Dieu prenait les péchés du peuple et les faisait partir au loin. Notre parabole nous invite à la gratitude pour l'immensité du pardon de Dieu. Et elle nous invite aussi à mesurer les offenses qui nous sont faites à l'aune de celles de notre péché envers Dieu. Et fort de ce constat, fort du constat que nous ferons immanquablement, cette parabole nous invite à imiter notre Père Céleste dans sa générosité, à pardonner car nous avons été pardonnés, à pardonner comme nous avons été pardonnés, à pardonner car il nous le demande. C'est difficile. Ça peut même me paraître injuste. Ça peut peut-être même me révolter. Et pourtant, Jésus l'a dit. Il s'agit ici d'aller à l'encontre du Lémèque qui sommeille en chacun de nous. Et plutôt que de demander réparation, plutôt que de nourrir un désir de vengeance, plutôt que de nous complaire dans la position de la victime, accorder notre pardon parce que Dieu nous a accordé le sien. Être des imitateurs de notre Père Céleste dans son élan d'amour et de générosité pour nous et pardonner à celles et ceux qui nous ont offensés. Notre parabole n'est pas complètement terminée. Indignés, profondément attristés par son attitude, certains des compagnons du serviteur impitoyable vont trouver le roi, le maître, pour l'informer de ce qui vient se passer. Et nous avons dans les dernières paroles de notre parabole une évocation claire du jugement dernier. Notre homme comparaît devant son maître et le reproche de celui-ci confirme tout ce que nous venons de dire. Versets 32 et 33, alors le maître le fit appeler et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Et la réponse implicite à la question du maître est bien évidemment que j'aurais dû. Oui, il aurait dû remettre la dette de son débiteur après avoir bénéficié de la grâce de son maître. Et la sanction tombe sans appel. La colère de Dieu est à la mesure de sa grâce, son jugement à la mesure de sa compassion. Et il y a dans les paroles du maître la sévérité, le caractère irrémédiable du jugement dernier sur ceux qui s'obstinent à mépriser la grâce de Dieu. Et son maître, en colère, verset 34, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait, autant dire pour l'éternité. Chers amis, ces paroles de condamnation très fortes nous disent et nous rappellent que nous ne pouvons pas être au bénéfice de la grâce de Dieu sans vivre cette grâce dans nos vies et dans nos relations. Alors il y a forcément des plus, des moins, des hauts et des bas, il y a forcément le facteur temps, mais nous devons vivre la grâce. Tout mettre en œuvre pour vivre la grâce dans nos relations. C'est exigeant, mais c'est incontournable. C'est exigeant, mais c'est Jésus qui l'a dit. C'est exigeant, car c'est ainsi, dit Jésus au verset 35, que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Avec un sujet comme le pardon, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur ce qu'est le pardon et sur ce qu'il n'est pas. Surtout sur ce qu'il n'est pas. Beaucoup de choses à dire sur la paix et les réconciliations à bon marché dans nos relations, dont nous nous satisfaisons si souvent, mais qui ne sont pas le pardon. On confond trop facilement réconciliation et pardon, reprise des relations et pardon. Le pardon, ce n'est pas la reprise des relations. Le pardon, c'est l'effacement de la dette. Alors que la relation, la réconciliation supprime l'inimitié. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'illusion du temps qui efface la dette. Mais seul le pardon efface la dette. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la solution de facilité de faire comme si. Vous savez, on fait comme si. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus confortable. Ça nous permet de rester dans notre zone de confort. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'excuse de la non-repentance de l'autre comme suffisante pour justifier mon immobilisme. Mon immobilisme arrangeant qui m'arrange alors que l'Écriture m'engage à aller trouver mon frère et ma sœur si elle a péché ou s'il a péché contre moi. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le jugement qu'il est facile de porter sur les autres qui ont du mal à pardonner. Parce que je ne suis pas à leur place et je ne sais pas vraiment ce qui se passe en eux et ce qui s'est passé. C'est jamais facile de pardonner. C'est toujours un chemin et il faut aussi prendre ça en compte. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'erreur qui consiste à croire que parce qu'il y a eu pardon, il doit nécessairement y avoir reprise des relations comme avant. C'est parfois possible, mais pas toujours. Ça dépend de la nature de la faute. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la place et la nécessité de la repentance dans le processus du pardon. Sur le fait que pardonner ne veut pas forcément dire oublier. J'aimerais ici citer Jacques Buchol dans son livre « Le pardon et l'oubli » qui dit « Pardonner, c'est se souvenir pour oublier ». C'est se rappeler de ce qui a été dans le passé pour ne plus en tenir compte dans l'avenir. C'est vraiment bien dit. S'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, certaines très importantes ont néanmoins été dites ce matin. Et surtout, elles ont été dites par Jésus lui-même. Et si je suis son disciple, alors elles m'engagent. Elle m'interpelle et je ne peux pas faire comme si, parce que Jésus les a dites. Il est temps que nous terminions et j'aimerais le faire en posant quelques questions directes. Y a-t-il quelqu'un à qui je refuse mon pardon ? Il est important que nous nous posions cette question. Y a-t-il quelqu'un qui m'a offensé ? À qui je devrais parler ? Y a-t-il quelqu'un que j'ai offensé et à qui je devrais demander pardon ? Si Dieu m'a fait grâce, il attend de moi que j'agisse de même dans mes relations avec mes frères et sœurs en Christ. Il attend de moi que je sois prêt à pardonner. Je dis bien que je sois prêt. C'est le début et après c'est un chemin. Que je sois prêt à pardonner comme lui l'est toujours envers celui ou celle qui se repent. Il l'attend de moi et il me l'a fait savoir par Jésus. Alors Pierre vint lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Que Dieu nous accorde la grâce de bien comprendre ces choses et surtout qu'il renouvelle en nous le désir de lui ressembler. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence. vous invite à chanter les deux petits chants qui vont suivre comme une prière. Le premier dit « Change mon cœur, Seigneur », et tout doit commencer par là. Il faut que le Seigneur nous transforme pour que nous puissions vivre et marcher en nouveauté de vie. Ça, nous ne pouvons pas le produire par nous-mêmes. Change mon cœur, Seigneur. Et puis, nous enchaînerons avec « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême ». Les boîtes circuleront dans les rangs. Ça sera aussi le moment de l'offrande pendant ce chant. Ces deux chants. Je vous invite à vous lever.